Chères auditrices, chers auditeurs, bonjour à tous. Merci de nous suivre comme chaque semaine dans ce podcast On s'aime fort. Un petit rappel, On s'aime fort, le livre est disponible évidemment dans toutes les librairies, dans les grands réseaux et puis bien sûr en vente sur monjardinbio.com. En tout cas, merci infiniment pour tous vos messages, ça nous fait très plaisir. Top générique. On s'aime fort, le podcast du jardin. Vendredi 26 avril, bonjour à tous, bonjour à toutes, on est ravis de vous retrouver. Comme chaque semaine, on est parti pour une heure de jardinage, de conseils, d'analyse jardin, d'analyse météo. Lui, on analyse sous toutes les coutures, c'est Eric, salut l'ami.
Salut Brice.
Ça va ?
Oui, ça va, je la vois un petit peu prise parce que...
c'est l'hiver.
Il fait un peu frais, mon ami.
Oh, bah dis donc, t'as une glaïeule coincée dans le gosier.
Ouais, j'ai reçu un coup dans... Non, pas non, je voulais dire... Non, c'était compliqué. Je trouve qu'on a des moments où il fait très chaud. Donc, quand je dis très chaud, quand c'est en plein soleil, quoi.
Oui.
Et dès que le soleil se couche, ben, tu te prends un 5, 6, 7 degrés parce qu'il y a un petit coup de vent. Donc, voilà, tu essaies de travailler vite le terrain pour jouer entre les moments ensoleillés et les moments qui sont longuement en pluie ou humides. Voilà, je ne sais pas si des fois, par moment, je ne fais pas du mauvais travail parce que franchement, le sol est tellement gorgé d'eau.
Oui.
Alors, entre en mettant des cartons dessus, en mettant des films plastiques de récup et compagnie, bah, j'arrive à trouver un petit peu, un peu un rythme de croisière, mais ce n'est pas simple. Hein.
Mais au final, c'est peut-être parce que tu es le plus mauvais. Alors, les conseillers sont toujours les plus mal chaussés, j'allais dire. Hein. Tu nous as dit la semaine dernière, doucement. Mais au bout d'un moment, il faut avancer, c'est ça.
Bah, il faut un petit peu avancer, pas surtout sur les premiers semis, parce que le premier semis, s'il commence au moment où je veux dire c'est la dernière fois que je voulais semer, moi, j'aime pas trop. Quoi, hein.
Oui, c'est ça. Oui.
Voilà, moi, j'ai fait mes premiers semis de carottes, j'ai fait maintenant, parce que c'était compliqué, mes premiers semis de poireaux à l'extérieur, ce que je sème en rang tout de suite, des semis extérieurs de radis, semis extérieurs de salade, mais c'est un peu compliqué. Hein.
Donc ça colle, c'est très froid.
En sachant alors, que je suis même pas avec la lune, alors...
Parce
que là, c'est un peu compliqué, alors j'essaye de faire un peu du hors-lune, de manière à pouvoir avoir un petit peu d'avance sur autre chose, de manière que... Bah de le faire pendant la lune qui va bien, je dirais, pour le deuxième semis, quoi, hein. Notamment des légumes comme les panais. Mais bon, ce que j'ai remarqué, là, tout de suite, je le place, parce que sinon j'ai oublié. Franchement, par exemple, sur des récupérations de graines, quand on récupère des graines, même très rapidement, hein, j'ai récupéré des graines de courge incessamment il n'y a pas longtemps. Je les ai semés tout de suite, ça lève tellement vite, je dirais, même en godet, par rapport à des graines qui sont là depuis un certain temps dans un paquet. Franchement, quand on peut ressemer directement sa propre production, là c'est vraiment des analyses que je fais depuis plusieurs années et que l'on fait tout de suite, on sélectionne tout de suite les graines et on le fait tout de suite. Franchement, on a un beau taux de germination, quoi.
Et puis, tu le disais aussi de façon très claire, hein, il y a évidemment le semis spontané. Au-delà de ça, le semis spontané, c'est on laisse faire la nature. Ça marche sur les blettes, ça marche éventuellement sur les poireaux que tu laisserais monter
oui,
en graines.
Oui, les poireaux, les salades, ça marche très très bien.
Hein. Alors, l'idée autour, encore une fois, on laisse une montée en graines, c'est quand même de désherber un petit peu autour.
Oui, bien sûr.
Ou on laisse faire du coup.
Non, le principe, c'est de préparer sa planche de semis. Je dirais comme si on prépare en pépinière, on désherbe tout simplement.
Et tu laisses monter la bestiole, quoi.
Voilà, on laisse monter. C'est vraiment il y a des choses qui repoussent. Vous pourrez, mais testez-le, hein, franchement, cher auditeur auditrice, testez autour d'un pied de. Bah là, par exemple, j'espère que ceux qui ont encore des choux fleurs, des choux à fleurs ou des choux paumés qui remontent et compagnie. Et là, ils sont en pleine floraison. Ils commencent, pour certains secteurs, ils sont juste en floraison. Bah, je vous invite, si vous avez un chou cale, si vous avez un chou, par exemple, brocoli, mettez un piquet sur le chou qui vous paraît le plus beau, monté en graines, enfin en fleurs. laisser les graines venir et puis après laisser se semer. Franchement, et dites-nous ce que vous en pensez. Est-ce que ça vaut pas plus le coup? Parce que souvent on dit oui, mais ils vont émettre des graines très tardivement, ce qui va faire que peut-être la production ne sera pas au rendez-vous. Mmh. En sachant qu'aujourd'hui, on a bien remarqué que sur les choux, dès qu'on va planter le plus tard possible, ça ira mieux parce que ça va éviter de passer ce fameux été qui est des fois trop chaud. Si de toute façon, si ça vous plaît pas, ça va vous faire un engrais vert, tout simplement au sol. Il suffira de donner un coup de binette dedans et ça sera vite réglé, quoi. Mais voilà, tester quelque chose, une blette, une salade, un chou. Alors plutôt un chou, entre guillemets, à feuilles ou à fleurs. Chou cale, par exemple, ou à fleurs type brocoli. Là, qui va se ressemer tout seul pour voir ce que ça vous donne dans votre jardin. Testez-le. Faites-nous plaisir. Voilà. Alors peut-être que ça va être un style qui va être un peu compliqué pour vous. Mais voilà, une fois. Voilà. Et vous regardez ce qui se passe.
Donc de retester, on a bien compris. Hein, ça peut être principalement de la salade. Ça peut être du poireau. Ça peut être éventuellement également du... Tu nous parlais de poireau, tu nous parlais de blettes.
De choucal, de blettes.
De choucal, d'épinards également.
D'épinards, testez aussi parce qu'en ce moment, ils sont en floraison, en fin de floraison, souvent les secteurs. Ouais. La mâche qui a monté en graines. Laissez faire, là, pour l'instant. De toute façon, il y a plein de choses qu'on ne peut pas faire au jardin. Laissez se ressemer. À mon avis, vous aurez de la mâche partout. Voilà. Faites-nous confiance sur un plan. On ne vous demande pas grand-chose. Testez-le, et vous regarderez ce qui se passe pour les prochaines. Par exemple, ce que je vais faire cette année, c'est que j'ai laissé beaucoup de choses de la famille crucifère, que je vais laisser pousser à fleurs, et ça va me servir pour zone où je vais mettre des courges. Bon, je change un petit peu là. À cet endroit-là, je vais mettre les courges. Il y a tellement d'épaisseur, je dirais, en hauteur et en épaisseur, qu'il n'y a pas de plante indésirable qui pousse au pied. Hein. C'est impressionnant. Ouais. Et le 15 mai, qu'est-ce que je vais faire? Je vais cisailler tout ça et puis je planterai mes courges dedans. Quoi.
Directement dedans.
Ouais, avec un petit supplément de paille. Hein.
Alors, déjà, tous ceux qui nous ont écoutés la semaine dernière, bien sûr, on pensait aux professionnels sont en lutte acharnée vis-à-vis du gel, bien sûr, face au gel. Alors, on a vu des différentes techniques, sans parler évidemment de ce que ça peut consommer en flotte, de ce que ça peut consommer aussi en paille en termes de qualité de l'air, parce que c'est aussi une réalité, faut le dire.
Ouais. Ouais, oui.
Mais eux, c'est juste leur gagne-pain aussi. Donc, faut derrière aussi prendre l'intégralité et finalement faire face un peu à ces injonctions contradictoires que nous avons chacun, puisque l'arboriculteur, s'il n'a pas d'abricot à récolter, il n'a pas de sous à la fin de l'année, hein, il n'a pas de salaire. Ça, c'est la réalité. Pareil sur le viticulteur, pareil sur le maraîcher, pareil sur plein de professionnels et d'agriculteurs et de paysans qui nous écoutent. Donc, pensez à eux. On va revenir un point quand même sur ce qui se passe chez nous, parce que je me souviens l'année dernière, tu étais de la lettre de dire oui, ok. Bon, ça a cramé, mais pas de panique, on peut encore faire plein de choses. Et de toute façon, tu l'as dit il y a un instant, de toute façon, il y a des choses qu'on peut rattraper. On a eu quelques clients qui nous ont envoyé des messages en nous disant « Mes plants, ils sont super, achetez ou faites moi-même, mais tout a cramé. » Bon, c'est vrai que malheureusement, on n'est pas forcément équipé pour les mettre à l'abri, pour les protéger du froid. Chauffer une serre, c'est un peu idiot, on est assez d'accord en tant que jardinier particulier. Une fois qu'on a dit tout ça, Eric… je pense que les aubergines, les poivrons, c'est un peu foutu. Là, vaut mieux les acheter.
Alors après, comme dit, tout dépend jusqu'à quel endroit des yeux ça a été pris. Parce que faut pas oublier que c'est ça le truc. C'est que souvent, ce qu'il y a, c'est que on enlève les gourmands dès le début parce que ils sont ceux qui sont tout en bas. Ceux-là, moi, ça m'a déjà arrivé une fois où, je me rappelle, c'était au mois d'avril. Le 15 avril, j'avais mis mes tomates sous serre et comme un gros couillon, j'avais pas fermé la porte ni les rabats sur les côtés. Voilà, gros
d'accord. Couillon,
le lendemain, je suis arrivé, ça avait gelé. Faut savoir que j'ai jamais eu aussi belle production de tomates que cette année-là parce que ça avait simplement gelé en surface, globalement. Donc, toutes les têtes étaient tuées, toutes, pas une. Non, vraiment zéro, quoi.
Ouais.
Et par contre, les bourgeons, le froid n'était pas venu jusqu'en bas, quoi. Et donc, j'avais encore eu les deux bourgeons, c'était reparti du pied, quoi.
Donc, ça veut dire que tout n'est pas forcément perdu.
C'est ça. Moi, je dirais que quitte à attendre, il faut mieux replanter après les seins de glace. Hein,
Donc, on va le rappeler, c'est aux environs du 15 mai.
Et puis, ce que moi je ferais pour tout, c'est de couper à 3 cm sur le premier démarrage de bourgeon, quoi.
Alors là, quand tu parles couper en termes de bourgeon, c'est quoi? C'est les tomates, c'est
bah tout, moi tout, tout,
tout
même
ce qui
les
a cramé.
Poivrons, tout ce qui a cramé, il faut couper. De toute façon, ça va faire une maladie, enfin ça va faire une zone de faiblesse qui est très sensible aux maladies. Donc déjà un, faut le couper. Alors déjà, faut le couper avec un ciseau que vous trempez à chaque coupe dans voilà de l'alcool par exemple, hein, à brûler ou un gel hydroalcoolique quoi. Comme ça, ça fait propre. Et après, réchauffez vos pieds aussi, pas les vôtres, mais les pieds de tomate en mettant de l'eau qui est tiédie. Hein, simplement, voilà, vous mettez une moitié d'eau froide, une moitié d'eau chaude dans une bouteille. Et puis comme ça, vous arrosez un peu plus voilà, de manière à des fois réchauffer les mottes parce que les mottes étaient dans un endroit tellement froid que ben, là, ça va favoriser le champignon. Donc là, voilà, ça peut être ça.
Ouais.
Par contre, si c'est sur les courges, voilà, souvent les courges, ça prend jusqu'en bas, quoi.
Oui, et puis accessoirement, oui, là c'est compliqué de retrouver un bourgeon. La courge, ça revient très facilement.
Mais là, ça se ressème très rapidement. Là, ouais. C'est,
voilà. On est, donc voilà. Là, il est absolument pas tard. Mais là, pour le coup, il vaut mieux les forcer dans le salon plutôt que dehors.
Ah, complètement. Là, faut les germer, les faire germer chez soi.
Ouais.
Donc là, quitte. Et puis après, une fois que la température, moi, je les ai laissés dehors, hein, sous une vitre. Hein, pour l'instant, ça va. Vitre, alors sous une vitre adossée à un mur, hein, qu'on soit bien d'accord. Plein sud. Donc là, bon, des fois, je crains que bah, les melons et les concombres, ça, comme ça a végété dès le départ, si j'en ressème, ça ira aussi vite au niveau de la repousse, quoi. Voilà. Mais là, ça nous montre bien que globalement, pour les achats, alors je sais qu'on a toujours un peu les achats, on a envie d'acheter rapidement, quitte à conserver des plants chez soi, achetez-les une semaine avant de les planter. Hein.
De les planter, oui. C'est un petit taquet à tous ceux qui ont acheté et sur les fêtes des plantes et dans les jardineries où finalement se sont pressés. Il y a des clients qui ont il y a des jardiniers qui ont, ça fait 3 semaines qu'ils ont effectivement des plants. On va le rappeler encore une fois, la première quinzaine de mai, il peut encore y avoir du gel.
Et oui,
c'est
puis,
ce qui s'est passé.
Voilà, et puis il ne faut pas oublier non plus, c'est qu'aujourd'hui, on a. Enfin, peut-être cette année, on va peut-être se tromper, mais on a un mois de plus à l'automne.
Oui.
Bon, bah voilà.
Donc, on décale encore une fois. Ouais. Et puis, après la rentrée des classes, hein, je prends un gros raccourci, mais c'est vrai. Après la rentrée des classes, on pourra encore continuer à manger et de l'aubergine, et du poivron,
bien sûr,
et de la tomate, etc. Donc, on décale. Et là, c'est d'autant plus vrai parce que ce coup de froid… On le sent. Alors, on n'est absolument pas ni Madame Soleil, ni présentateur météo, enfin ni prévisionniste de chez Météo France, mais on sentait quand même, Eric et moi, ça fait quelques semaines qu'on le dit, qu'on avait l'impression que l'hiver, pas forcément,
oui,
parce que là, il s'agit vraiment des conditions hivernales.
De toute façon, la problématique qu'on a au niveau particulier, vous en avez tous les jours sur les grandes chaînes publiques ou privées qui vous racontent l'histoire des maraîchers, qui à chaque fois, il y a tous les maraîchers, ils disent, bah voilà, comme la. Il n'y a pas de souci qu'il fasse froid, mais comme ça a commencé trop rapidement, on n'arrive pas à gérer.
C'est,
quoi. C'est tout. Hein,
c'est
et là, tous les jours, ce que ressent le particulier, ben, le maraîcher, il l'explique tous les jours. Quoi, hein, donc,
C'est ça. Donc là, pour le coup, prudence, évidemment, ça, c'est sa grosse préoccupation, son gros sujet. Très souvent, hein, cette histoire-là. Et puis, bien sûr, ne pas se précipiter, ça veut dire aussi des leçons pour les prochaines années. C'est-à-dire, voilà, là, on sait qu'il y a une grosse euphorie, on a eu une accélération et c'est ce qui a fait débourrer, germer, pousser là-dessus. Et on voit derrière les conséquences. Donc, ce qu'on ne maîtrise pas, c'est évidemment les arbres, les fruitiers.
Ah oui, ça.
Ce qu'on maîtrise un peu plus, c'est nos semis.
Oui, c'est ça. Et comme dit, ben, moi, ça fait déjà 8 jours que j'ai les pieds de tomates, parce que moi, les pieds de tomates, je les achète. Plus petits chez les uns, chez les autres, parce que moi, chez moi, il ne fait pas assez chaud, donc j'ai fait le choix de les acheter petits, je les force chez moi. Bon, bah là, ils attendent, hein, même pas dehors, ils attendent, enfin, même pas sous serre, ils attendent dans la maison, quoi, près des vitres. Alors, je sais que le démarrage va être compliqué parce que dès qu'il va faire beau, dès qu'il va faire des températures un peu plus fortes la nuit, bah, je vais vite les mettre sous le tunnel en attendant, parce que sinon, ça va pousser très droit et les tiges seront grêles. Quoi.
Pour les protéger, nous sommes d'accord. Eric,
voilà. Ouais.
Après cet édito météo potager, alors on va résumer tout ce qu'on s'est dit. Si ça a gelé, coupez effectivement.
Oui.
au niveau du bourgeon.
Ouais.
Ce qu'on peut sauver, tout ce qui est courge, etc., n'hésitez pas à le refaire encore une fois. Et puis attention, parce que la vague de froid, enfin la vague de froid, on s'entend, les températures fraîches ne sont pas terminées. Je dis attention à ce qu'on dit en termes de vocabulaire et de sémantique, parce que c'est vrai que des fois, ça peut porter à confusion. Voilà. En avril, Eric, ne te découvre pas d'un
ouais,
fil.
Ouais, mais là, voilà. C'est même plus d'un fil, là, c'est carrément.
Ouais, c'est l'anorak. Ouais. On est d'accord. Tempo jardin, rapidement.
Oui, tempo, donc là jusqu'au 28 avril, on est plutôt dans les plantations, voilà, le sol et compagnie. Bon, comme dit, on n'arrête pas de dire depuis 3 semaines qu'il faut couvrir son sol avant de planter.
Bah, là,
ceux
faut
qui
le découvrir.
L'ont fait, ça fait quand même, le sol est un peu moins humide quand même, c'est plus facile.
Ouais.
Voilà. Laisser les cartons sur le sol et laisser les bâches marcher plutôt là-dessus. Voilà, comme ça, ça évite de mettre des pas bien enfoncés dans le sol. Sinon on va être surpris après quand on veut vouloir décompacter. Puis je suis persuadé qu'après il va y avoir un petit coup de vent, d'ailleurs on le voit bien même en ce moment qu'il fait froid, quand on a sur un sol qui est compacté, il y a plus d'eau et par contre il y a le petit vent qui vient et qui fouette bien le sol, ça fait voilà, sur des sols qui sont un peu limoneux, argileux, ça fait de la brique quoi.
Donc on plante, on a vu encore une fois, alors c'est un peu la même chose que la semaine dernière, hein, sous tunnel,
ouais.
Sous serre en l'occurrence, les légumes du soleil, tomates,
ouais.
Poivrons, on attend pour l'extérieur,
ouais.
Sauf dans le sud où on est à peu près sûr qu'il ne gèlera pas, et
ouais.
Encore.
Et puis
encore.
Même sous les tunnels, hein, par exemple dans l'est, moi je ne mettrais pas, faut que le tunnel soit bien exposé hein, pour que la température dans la journée ait bien été suffisante, ou mettre double tunnel ou protection dans le tunnel pour éviter les coups de... Des coups de froid dessus, hein, parce qu'il y a des producteurs qui ont fait sous double tunnel qui se sont fait avoir. Hein, donc,
Oui, donc attention aussi. Ouais. Et puis attention aussi au choc thermique.
Ouais.
Je pense à Yves là, qui nous a envoyé un email il y a quelques minutes avant le début de cet enregistrement, qui me dit « je ne comprends pas, j'ai reçu des plans et ils sont complètement froids ». Le problème, c'est qu'il y a eu un… Oui, mais pourquoi le reste fonctionne et le reste, il n'y a pas eu de casse. Oui, mais parce qu'il y a aussi une problématique d'adaptation. Quand on a des plants qui sont plus ou moins qui sont dans un tunnel et qui ont l'habitude de de s'adapter pour le coup à la température, c'est pas la même chose que si je vais chercher des plants par exemple dans ma jardinerie, ou si je les achète par exemple chez nous, on les reçoit et puis là on les met dans un tunnel qui est très frais, le choc thermique il est délétère quoi, hein. C'est ce qui s'est passé visiblement chez Yves encore une fois. Alors on a vu on plante et puis fin du mois on bascule en lune favorable au semis, Eric.
Oui, donc on va repartir. Et là, on sème vraiment de tout, même des haricots pour plutôt le sud de la France.
Oui.
Voilà. Nous, on peut en semer en godet, je dirais. Quand je dis nous, c'est au nord de Lyon, quoi. On peut en mettre en godet pour prévenir, mais je veux dire, ça va des fois aussi vite de semer directement en pleine terre pour éviter justement les chocs thermiques, parce que là, il faut vraiment que le sol soit chaud.
Oui.
Même si on sème des salades, semer plutôt des laitues. Voilà, et on verra après, les chicorées, il faut que le sol soit un peu chaud pour que ça démarre. Hein. Donc du 14-15 degrés, donc on est loin de ça, on n'a même pas, le sol n'est pas chaud. Il ne faut pas oublier aussi que le sol est gorgé d'eau.
Oui, c'est ça, donc très froid.
Très froid, et c'est-à-dire que quand un sol est gorgé d'eau, pour que le sol se réchauffe, pour remonter, je dirais, quand un sol est gorgé d'eau, les coups de soleil, il faut qu'il soit bien chaud pour pouvoir remonter un sol qui est gorgé d'eau. Quand le sol est moins gorgé, c'est plus facile à faire remonter la température du sol.
Donc, parce que Eric, on est d'accord, tout l'avance qu'on a eue en termes de cumul et de température et de calories, de chaleur qu'on a pu avoir sur les sols de nos jardins, qui tentaient ceux qui étaient découverts et nus, hein, on a quand même vachement perdu, parce que quand on a 1, 2 degrés et 8 la journée, c'est pas comme ça que tu réchauffes ton sol.
Non, non. Et puis il faut pas oublier qu'il y a encore des sols qui sont quand même gorgés d'eau, c'est-à-dire
oui,
que la nappe phréatique affleure.
Ouais.
Quand on voit, quand il a plu, là, par moment, les flaques d'eau, il n'arrivait même plus à se. Elle reste résorbée, donc ça veut dire que le sol est vraiment saturé en eau, quoi. On ne va pas se plaindre que le sol est gorgé d'eau. Donc il faut aussi, faut pas penser que l'eau qui va venir va être aussi bénéfique pour le sol. À partir 1er mai, fin dans le sud de la France depuis mi-avril, dans le nord, à partir du 1er mai, toute eau qui va pleuvoir va servir directement à la plante, hein, spontanément, elle va le puiser. Donc ça ne servira pas dans le sol.
Donc, prudence, bien sûr, à ne pas s'exciter trop. Les haricots, on est d'accord, hein, on pouvait
Ouais,
là,
voilà.
à la mi-avril, y aller. Le problème, c'est que là, il est tellement froid le sol que votre graine, elle pourrit.
Ouais, c'est ça. Alors, par exemple, pour les petits pois, pour moi, je trouve que des fois, c'est un peu tardif pour les particuliers parce que on peut se retrouver en pleine chaleur, mais est-ce qu'on a eu possibilité de semer des petits pois? Voilà.
Avant, non.
Moi, ça me semble
Enfin,
un peu compliqué.
c'est compliqué
Pensez
avant.
aux petits pois ridés et puis pensez aussi au peut-être à mettre vos semis de petits pois dans des futures zones qui seront peut-être un peu plus à l'ombre quand le soleil sera fort, par exemple,
Pour éviter de
entre
les
11.
cramer, c'est ça,
Ouais,
Eric?
c'est ça, voilà, parce que
Ok.
sinon ça sèche tout de suite. Voilà, ça. Et après, pour tout ce qui est, je veux dire, les blettes, bah, on n'est pas. Ouais, pour les blettes précoces, oui, c'est un peu juste maintenant, mais bon, après, tout va venir, hein, il n'y a pas de souci, les panais, les navets, les épinards, les carottes, tout ça, on a le temps, hein.
Après, tout ce qui est blette, même ce qui est betterave. Alors, betterave, c'est pareil. Encore une fois, comment voulez-vous les faire à part en plaques, éventuellement en
Ouais.
serre? Mais c'est compliqué là de semer sur des sols, encore une fois, très lourds qui sont gorgés de flotte. C'est très compliqué de faire de la carotte. Toi, t'en as fait, hein, la
Oui, j'ai
carotte, le
fait,
panais.
voilà, alors donc je l'ai fait comme ça, c'est-à-dire que je l'ai semé, enfin j'ai préparé, alors je l'ai fait sur un lit à peu près de 20 cm de large, voilà, et j'ai balancé mes graines de carottes mélangées avec des radis et un peu de salade, pas trop, hein, parce que sinon, ouais, et j'ai surtout couvert avec du sable, pas pour alléger le sol, mais pour que dès qu'il fût comme si blanc, je dirais, et je veux dire, c'est le sable va vite se réchauffer dès qu'il y a un peu de rayon du soleil, quoi. Voilà.
C'est ça.
Voilà.
On a fait le tour. Évidemment, vous retrouvez bien sûr tout cet
Ouais.
agenda sur notre blog, monjardinbio.com. Eric, je te
Ouais.
propose, si tu n'as plus rien à rajouter sur le tempo du jardinier, de passer à vos questions et tes
Oui.
réponses. Et on va commencer par Stéphane, mais auparavant, un petit coucou à Raphaël, puisque ça y est, Habemus Papam, c'est comme ça qu'on dit. La fumée blanche est sortie de la cheminée. Nous avons une adresse mail totalement dédiée à ce podcast. Raphaël, écoutez bien, on s'aime fort. Donc Onsemefort. Je ne le répéterai qu'une seule fois. On s'aime fort, @monjardinbio.com. On s'aime fort, @monjardinbio.com. L'adresse dédiée est en place. Vous pouvez désormais nous contacter uniquement sur ce mail. Ça nous permettra en tout cas de trier toutes vos questions. Voilà, on s'aime fort, @monjardinbio.com. Eric, Stéphane, qui nous dit bonjour à tous les deux, merci pour votre podcast, toujours dans le bon tempo. Mais que se passe-t-il avec mon tilleul d'Henri? Il est planté dans un gros pot sur ma terrasse, il était parfait cet hiver, rempli de bourgeons, prêt à sortir, et puis les feuilles sont apparues en grande partie. Ont changé d'aspect, prenant une couleur brune comme la photo le montre. On a l'impression vraiment d'un dessèchement, hein, qui est cramé. L'année dernière, c'est les boutons floraux qui n'avaient pas été jusqu'à la floraison, en fanant, pardon, et en brunissant prématurément. Il est bien arrosé au soleil, j'ai mis du compost en automne, je vois pas de nuisible. Qu'en pensez-vous? Est-ce par exemple un problème d'équilibre du sol? Signé
Oui,
Stéphane.
complètement, parce que c'est un tilleul du Japon, hein, voilà, pour faire simple. Mais c'est un arbre qui, quand même, c'est un arbre, quoi. Donc ça veut dire que c'est un arbre qui fait plus de 7 mètres. Et comme il va se retrouver dans un pot, bah voilà quoi. Au bout d'un moment, là, à mon avis, il doit faire du chignon dans le pot. Et il a des gros problèmes par moment. Bah, quand il veut vraiment à manger, il n'y a pas à manger. Voilà. Et c'est ça le gros problème. Hein. C'est pour ça qu'il y a des moments de son développement.
Où
Développement,
il a
ça veut
faim,
dire
quoi, c'est
il a
ça?
faim. Et c'est pour ça que des fois, il peut perdre la floraison, il peut perdre les feuilles. Donc, comme c'est des arbres qui quand même qui supportent des températures basses, voilà, pas trop importantes, mais quand même, ça vaudrait peut-être le coup de planter en pleine terre, quoi.
Encore faut-il avoir de la place.
Voilà.
Bon,
Bon, c'est un arbre
ça.
de petit, c'est un tilleul de petit volume, hein, c'est pour ça qu'il est choisi, quoi.
Oui, mais ça veut dire que le pot, plus c'est gros, plus c'est mieux, Eric. C'est ce que tu dis à chaque fois, hein.
Oui, c'est ça. Le problème, c'est qu'à un moment, il a peut-être eu la limite du pot, là. Hein. On peut pas aller. Au bout d'un moment, là, à mon avis, il doit faire plein de chignons dedans.
Le test, c'est on soulève, on regarde et
Bah
on
voilà,
regarde
bon
si ça
maintenant
chignonne.
c'est faut pas trop le regarder, mais là à mon avis ça doit tourner autour à fond quoi.
Ouais.
Hein, surtout si le tronc est à peu près gros, donc voilà, mon problème c'est un problème de sol. Là il n'y a plus rien quoi, il n'y a plus rien dans le sol quoi.
Donc du miam et
Oui,
surtout du
mais
rempotage
voilà,
et
et
de la
puis après voir
place.
s'il n'y a pas possibilité de le mettre ailleurs quoi.
C'est ça. Bien, Anne-Sophie qui nous dit, Anne-Sophie qui est une fidèle auditrice et qui nous dit bonjour Eric et bonjour Brice, je vais encore avoir besoin de vos lumières, j'habite Vitry-sur-Seine en région parisienne et j'ai un citronnier caviar depuis 4 ou 5 ans, je le rentre l'hiver dans mon atelier, je l'ai sorti le week-end dernier, j'ai constaté que quelques feuilles et un endroit en particulier étaient recouvertes comme d'une poudre noire avec un peu de blanc. Alors, je ne sais pas si vous arrivez à le voir sur la photo.
Oui, alors ça, quand il y a du noir sur tout ce qui est citronnier, enfin tout ce qui est agrumes, c'est ce qu'on appelle la fumagine. Hein. Ouais. Alors, la fumagine, ça ne vient pas comme ça. La fumagine, c'est parce qu'avant, il y a eu un insecte piqueur-suceur qui a fait du miel là, et sur ce miel là se développe un champignon qui s'appelle la fumagine.
Alors, du coup, qu'en pensez-vous ?
Donc, il faut, à mon avis, il doit y avoir des cochenilles ou des pucerons, mais sûrement des cochenilles ici et là. Et donc, il faut faire un traitement anti-cochenille, hein, donc à base de savon noir. Déjà, le savon noir, ça va enlever une partie de la fumagine. Mais dès qu'il n'y aura plus ce substrat sucré, hein, parce que c'est du caca de pucerons, hein, ou du caca de cochenille, ben, il n'y aura plus de fumagine. Mais c'est normal, il y a beaucoup de plantes qui sont à l'intérieur et qui sortent en ce moment, ben, il y en a pas mal qui sont remplis de fumagine. Et comme ils veulent pousser des fois, parce qu'ils trouvent un petit peu de lumière, ils font des surpousses, et ces surpousses sont sensibles à l'oïdium, d'où le principe du blanc. Donc à une fois, on peut avoir du feutrage noir, enfin, une espèce de plaque noire et du feutrage blanc. Donc voilà, donc pour les uns, c'est plutôt lutter contre... Enfin, c'est un champignon, mais il faut lutter contre l'insecte qui est à l'origine de cette profusion de champignons, donc la fumagine.
Oui, oui.
Et puis, il faut lutter après avec contre peut-être le champignon blanc que va être l'oïdium. Voilà. Alors moi, une fois qu'on le sort, en principe, après, ça se passe bien. Voilà. C'est parce que c'est confiné, compagnie. Donc, quand ça va être lavé par la pluie et compagnie, ça ira bien. Bon, pour l'instant, il ne faut pas trop le sortir parce qu'il est quand même... C'est un arbre qu'on pourrait imaginer rester dehors, mais il est quand même sensible au coup de froid, et notamment jusqu'à la température de moins 5. Donc attention. Et
Là, tu réponds à la question, est-ce vraiment indispensable de les rentrer tous les hivers quand ça commence avec
à Vitry-le-François, oui.
Ok.
Là, on ne peut pas faire autrement.
Voilà. Donc en gros, trois espèces de citronniers, on rentre tous les citronniers parce que le gel, il est pas encore.
Voilà, parce qu'après, comme dit, sauf s'il y a un agrume caviar qui est sélectionné pour des températures plus basses. Hein.
Ouais, mais dans ces cas-là, il faut le savoir avant, quoi.
S'il y a bien un endroit où il faut les fiches techniques, c'est tout ce qui va être agrume, parce que bon, voilà, il existe tellement d'agrumes et on a tellement une méconnaissance dessus qu'il faut, il faut toujours se renseigner sur l'étiquette, comme dit. Hein, c'est pour ça, il y a des agrumes qui tiennent très très bien sur des températures très inférieures, mais pas tous. Hein. Mmh. C'est pour ça qu'il sera important une fois qu'il est dehors. Mais moi, je ferai quand même une pulvérisation avec 50% d'eau et 50% de lait, voilà, pour lutter contre l'oïdium.
Et ça fonctionne, hein, en tout cas, enfin, dans la littérature. Et puis, moi, je l'avais testé notamment sur les courges. Franchement, j'ai l'impression que ça marche, cette histoire-là. Hein,
oui, ça bloque. Je ne dis pas que ça enlève, mais ça bloque.
Oui, ça bloque, ouais. Ça bloque le développement. Oui, ça t'enlève pas le blanc une fois qu'il est là.
Mais si l'eau détrice fait du fromage blanc, bah, le mieux, c'est le petit lait. Hein.
Bien, Anne-Sophie, merci toujours pour vos conseils et le plaisir de vous retrouver toutes les semaines depuis plus de 3 ans pour moi maintenant. Donc merci Anne-Sophie. Juste une question, dois-je couper les branches touchées par la fumagine ?
Non.
Par l'oïdium ? Non plus.
Non plus, de toute façon l'oïdium, les feuilles vont sécher et la fumagine, la couleur noire va disparaître à un moment, lessivée par la pluie ou voilà, des choses comme ça.
Bon. On va passer à Tiffany qui nous dit « Bonjour vous deux, j'ai découvert votre podcast il y a maintenant presque 2 ans et je ne m'en lasse pas. Merci encore pour ce podcast riche en informations. » Merci Tiffany. Je vous avais déjà écrit il y a un bon moment au sujet de mes pieds de kiwi qui ne passaient pas l'été. Et d'ailleurs, merci pour vos précieux conseils. J'ai 2 pieds femelles qui ont pris et qui entament leur 2e année. Alors mon petit questionnement est sur le tutorage. Actuellement, nous sommes sur 2 piquets en acier coulés dans du béton avec des câbles tirés entre chaque avec un système de serrage. Le petit souci, c'est que le plot de droite s'est levé d'une quinzaine de centimètres et ne repose plus par terre. Pour joindre l'utile à l'agréable, nous avons installé une tonnelle avec mon conjoint pour que les kiwis puissent y courir. Mais grande question, qu'est-ce qui serait le mieux ? Le construire, l'acheter en bois, en aluminium, en acier, socle en béton, planté dans la terre ? On est sur une pelouse. Beaucoup de questions et pas de réponse sur internet. Si vous avez des conseils, je suis preneuse. Merci à vous et longue vie à On S'Aime Fort. Donc la question, c'est comment je palisse mon kiwi ?
Le plus simple, c'est de mettre deux piquets en fer, quoi, et de tendre des fils sur différentes hauteurs, à partir de 80 cm, 1 mètre, jusqu'à une hauteur qui peut être 2-3 mètres s'il le faut, ce qui est fait le long d'un mur. Voilà. Mm-hmm. Mais si déjà vous avez deux grands piquets au-delà des 1m60, 1m80 et vous palissez à droite et à gauche, c'est déjà pas mal.
Et l'idée d'une tonnelle, parce que visiblement...
Ah oui, alors la tonnelle, mais il faut qu'elle soit hyper solide, quoi.
Voilà, mais parce qu'il va y avoir du poids, on est d'accord.
Voilà, c'est soit... Et puis en plus du serrage, c'est-à-dire que le kiwi, dès qu'il va choper la ferraille, il va te la tordre. Donc, si c'est par exemple des récupérations comme je vois en ce moment, parce que je l'ai vu, voilà, j'étais voilà, chez mes amis d'Emmaüs et je vois qu'il y a des gens qui ont acheté des tonnelles comme support pour plantes, quoi. Alors, quand il y a des haricots verts, voilà, ça va bien. Pourquoi pas, ça peut être joli, mais vous savez, les espèces de supports ferraille, tonnelles blanches, là, qu'il faut mettre là, dans le N1, dans le N2, puis dans le N3, là,
ouais.
Que je me prends la tête et j'arrive, je ne comprends jamais rien. Là, il faut savoir que ça ne supportera jamais une tonnelle pour un kiwi, quoi.
Donc, ça veut dire
que ce soit de la cornière, voilà. Ouais.
Donc, pardon, Eric, mais ça veut dire concrètement que il faut vraiment, ouais, vraiment du solide.
C'est ça. Le plus simple, c'est simple. Quand vous avez fait votre structure, il faut qu'une personne à peu près de 70-80 kilos puisse y prendre.
Ah oui, quand même. Donc, c'est très, très lourd, cette histoire-là.
Mais c'est puissant, quoi.
Bois, aluminium, on s'en fout. Il faut juste que ça soit très, très résistant.
Ouais, ben, là, quand on me dit il faut de la ferraille, de toute façon, le kiwi, il faut de la ferraille. Hein.
Bien.
Du fil et de la ferraille.
Du fil et de la ferraille. Et on a compris que le tronc, une fois qu'il s'entortillait, il pouvait
être totalement... Voilà, voilà, bon, c'est peut-être pas aussi puissant qu'une glycine, quoique.
Ouais. Quoique. Allez, Ludivine qui nous dit « Bonjour Ebrice et bonjour Eric, je vis dans un lotissement boisé dans l'Eure, en Normandie. J'ai la chance d'avoir deux magnifiques vieux chênes dans mon jardin. Ils sont à moins de 10 mètres de la maison. Nous avons acheté notre maison il y a 5 ans et on a eu un gros coup de cœur pour ces arbres. Il y a au pied des rhododendrons du ou des aubépines de l'ail des ours du lierre, un chèvrefeuille japonica qui grimpe dans l'arbre. Le chèvrefeuille forme de grosses lianes, il est entremêlé avec le lierre. Nous aimons beaucoup ce côté sauvage, jungle. C'est un magnifique refuge aussi pour la biodiversité. Ils sont remplis de vie. Quel bonheur de se prélasser l'été sous ces arbres et respirer la douce odeur du chèvrefeuille. Mais pour nous, il est hors de question de couper le lierre, notre élagueur n'est pas du même avis. Il pense que le lierre affaiblit les arbres. De plus, ils commencent à arriver à leur cime. Alors, qu'en pensez-vous? Merci pour vos podcasts et c'est devenu mon rituel. Et on souligne la magnifique photo de Ludivine avec une très, très belle demeure de Normandie et justement ces arbres avec le lierre. Alors, le lierre, il me semble que jusqu'aux charpentières, ça va. Après, bonjour les dégâts.
Bah, le truc, c'est qu'il faut revenir un peu sur un point de fonctionnement du lierre. Le lierre n'a jamais fait mourir les arbres en forêt. Donc ça, c'est important. Mais il faut savoir qu'en forêt, les arbres sont souvent hyper ils sont plantés l'un à côté de l'autre, mais vraiment très proches. Ouais. Donc ça veut dire qu'il y a une concurrence, c'est-à-dire que les arbres poussent plus que normal. Ils poussent très, très vite en hauteur pour trouver les points de lumière. Et le lierre, lui aussi, va chercher la lumière. Donc c'est pour ça qu'il file le long du tronc. Donc, dans un arbre qui est seul dans un parc et compagnie, le lierre, lui, va avoir tendance... comme il va être aussi feignant, hein, parce qu'en plus, lui, il ne fait pas de la structure pour pouvoir mettre ses feuilles en position idéale. Il utilise une structure pour pousser autour, pour pouvoir monter le plus haut possible. Donc, un peu une feignantise, c'est une adaptation qui est assez forte. Donc, il faut savoir que s'il trouve de la lumière des fois plus bas, bah, il va aller sur les côtés et aller sur les charpentières. Donc, tant que le lierre, toutes ces plantes-là se sont le long du tronc, ça ne pose pas de problème. Le seul problème qui va se passer, c'est quand le lierre et compagnie va aller sur les branches, sur les côtés.
Bah, ce qui est visiblement le cas, tout doucement. Hein.
Tout doucement, voilà. Donc, comme dit, moi, je laisserai faire parce que les lagueurs, lui, ce qu'il va proposer, c'est couper à ras en bas. Hein. Voilà, il n'y a pas d'autre solution. Donc, déjà, attention, voilà, on peut demander à les lagueurs, c'est-à-dire que là, les lagueurs, il ne faut surtout pas élaguer les chaînes. Hein. Parce que là, je les vois, ils sont en maturité, ils poussent tranquillement. Dès qu'on va taper dedans, bah, je veux dire, ça va faire des pousses et des remplaçants qui vont être, ça va être désharmonieux et ça va poser problème.
Et quand quand un arbre doit être grand,
il doit être grand.
Donc, voilà.
Moi, pour l'instant, moi, ça me choque pas du tout, hein, la puissance du lierre qui monte le long du tronc. Mais je suis pas non plus naïf. Il va arriver que le lierre va peut-être avoir les mauvaises idées d'aller sur les côtés.
Ok, et donc là, ça veut dire que là, il faudrait couper parce qu'après,
Il faudrait couper, mais au démarrage, c'est-à-dire laisser la partie centrale. Et parce qu'il faut savoir que le poids, quand il est sur le centre d'un arbre, ne pose aucun souci parce qu'il pousse de la même vigueur de chaque côté. Donc, la force est bien répartie sur le point d'équilibre. Donc, il n'y a pas de souci. C'est quand il va sur les côtés qu'il pose problème. Donc l'idéal, ça serait de supprimer le lierre quand il va pousser sur les grosses charpentières.
Bien, donc à surveiller, situation à surveiller, Eric.
Une situation à surveiller, voilà.
Ok. Et donc, votre élagueur Ludivine n'a pas tort.
Non.
Mais il n'a pas complètement raison, on va dire ça comme ça.
C'est ça.
C'est ça.
Voilà, et puis on a toujours tendance, voilà, alors c'est sûr qu'il faut simplement dire que, parce que bon, voilà, et puis il faut que ce soit un bon élagueur, comme dit, parce qu'en ce moment, il y a des gens qui vous proposent des trucs pas très chers. Des lagages, alors attention, un, on ne doit plus léguer en ce moment, hein. Ça c'est clair, n'était précis,
on va le rappeler,
sauf,
ouais.
Sauf s'il y a vraiment dangerosité, branches cassées et compagnie qui risquent de tomber, hein. Faut pas non plus
c'est ça, voilà. Sécurité avant tout, évidemment,
voilà, c'est important. Et puis les élagueurs, comme j'en ai vu un là, attention, hein, s'il doit avoir une belle camionnette avec voilà, un bon numéro, une proposition, voilà, le Bunch Temple comme beaucoup, mais là en ce moment il y a des gens qui veulent faire pas cher. Ils arrivent parce qu'ils vous disent « Vous inquiétez pas, je vous coupe le bois et je vous l'enlève. » Alors c'est souvent ça, des fois on dit « Ah bah oui, tiens, ça m'intéresse. » Comme ça, je n'ai pas besoin d'aller en déchetterie. D'ailleurs, en déchetterie, ils ne devraient plus autoriser les branches qui arrivent maintenant. Mm-hmm. Ou dire aux gens qui amènent avec des branches « Attention, on n'a plus le droit de tailler. » Mais bon, ça, c'est qu'un avis personnel.
Et voilà. Un message que tu passes.
Voilà, que je passe. Et pas faire chier les gens parce qu'il y a une branche qui est devant une c'est lumière. Vrai. Moi, par exemple.
Oui.
Qui ont dit faut enlever la petite branche qui est devant la lumière parce que vous risquez de toucher le truc. Bah, non, ça m'énerve.
Mais bref. Ça c'est fait.
Ça c'est dit, okay. Ça c'est fait. Donc, okay. Dans le principe, c'est de, comme dit, de ne pas couper à l'aplomb d'un mur. Faut pas couper à l'aplomb d'un trottoir, comme ça, parce que ça va donner des nouvelles pousses qui vont partir encore plus vite que prévu. Mmh. Un élagueur. Un élagage d'un arbre, c'est une technique, et une technique qui est, je veux dire, très, très professionnelle. Donc faites appel à un vrai professionnel, même si le prix vous paraît un peu élevé.
Et donc attention aussi, parce que, alors tu disais le Stempel, hein, en alsacien, ça veut dire le tampon, hein,
voilà, oui,
le saut d'une certaine manière.
Hein. Voilà, c'est ça, de vraiment, voilà, et que c'est pas simplement la personne qui vous dit je suis dans le quartier, je viens tailler vos arbres.
Bien.
Je sais que tout le monde doit manger, je suis d'accord. Mais entre nettoyer des tuiles de toit au Karcher et compagnie avec un produit dégueulasse qui coule dans la gouttière et en même temps tailler, voilà, tout le monde ne peut pas faire tout et savoir tout faire. Hein, c'est pas possible.
Donc attention aussi aux sollicitations, ouais, qu'on peut avoir ici ou là. Bien.
Mais les lagueurs de l'auditrice, c'est sûrement très bien. Hein, simplement pour dire,
tu parles aussi d'expérience,
pour des questions,
Eric,
de facilité, hein, on accepte tout de n'importe qui.
Pauline sur Instagram qui nous dit bonsoir, j'écoute en ce moment votre podcast du jour. Et à 22h28 quand même, Pauline. C'est Pauline 123 sur Instagram. Pour Eric, un moyen mémotechnique, centrifuge qui fuit le centre. Centrifuge, tu sais, on se posait la question.
Ouais, ouais.
La semaine dernière, centrifuge qui fuit le centre. Voilà, souvenir d'école. Merci pour vos émissions, mine d'enseignement. Ouais. Voilà, on passe le message, Pauline. On va continuer avec Vivien qui nous dit bonjour Brice, bonjour Eric. Tout d'abord, merci pour votre podcast que j'ai découvert cette année et que j'écoute chaque semaine, chaque jour même, dans ma voiture, et dont j'ai déjà rattrapé 2 ans d'écoute. Tu vois, encore un Y. J'ai également lu votre livre que je trouve très intéressant. Vous m'aidez à faire grandir ma passion pour la nature et le jardinage. Merci en tout cas, Vivien. Le bouquin est en rupture de stock d'ailleurs chez nous. Hein. Voilà, c'est juste fou. Ça fait 3 semaines qu'on essaie d'en avoir. J'ai acheté une maison qui possède un grand jardin et je me pose quelques questions concernant 2 situations en rapport avec des tuyas. Comme Eric, je ne suis pas un grand fan de tuyas. J'en ai déjà abattu cet automne une haie de tuyas d'une 12 mètres pour y replanter des arbustes à fleurs et des petits fruits. Eric, ta haine du tuyas infuse. Hein.
Non, mais c'est pas la haine du tuyas, c'est la haine des difficultés pour gérer une haie de tuyas.
Oui, mais t'aimes pas les tuyas. Le dire,
bah,
ton coming out,
un tuyat qui est un vrai tuyat d'un arboretum et c'est super beau, quoi.
Ouais, mais les haies.
Et la haie, bah, dès qu'on a mis en haie des choses qui doivent être grandes, ça pose problème.
Bon, et c'est surtout la façon de les gérer aussi, ouais. Hein, on est d'accord. Enfin, on est d'accord que Vivien, il vaut mieux mettre des arbustes à fleurs et des petits fruits que du tuyat.
Complètement.
Tu préfères, voilà. Maintenant, je souhaite abattre ces 2 situations. 2 vieux tuyas d'environ 10 mètres de haut. Première problématique, c'est le coût. Vu la taille, c'est compliqué de faire ça moi-même. Vaut-il mieux laisser un bout de tronc pour y mettre des plantes grimpantes, couper le tronc à ras? Et les racines ne vont-elles pas poser problème pour replanter quelque chose à la place? Vaut-il me faire renier la souche par une entreprise?
Alors, c'est vrai que là, d'un seul coup, dès qu'il y a un tuyat qui est fait 10 mètres et plus, là, par contre, j'aime le tuyat. Non, mais... Ah. Parce que il est en forme, il est en maturité, quoi. Il va vers sa maturité. Donc là, c'est un arbre qui est joli. Donc là, celui-là, je l'aime mieux. Alors, par contre, s'il faut l'enlever, il faut l'enlever. Hein. J'ai toujours, voilà, c'est pas des situations qui font que. Là, l'idéal, c'est, je ne sais absolument pas quoi lui répondre, sauf que c'est l'auditeur qui va faire le test. C'est-à-dire qu'il va être, il va se mettre à un mètre de son tuya, de ton tuya, voilà. Et avec une bêche, en ce moment, il faut le faire. Est-ce qu'il peut trouver des points où il peut faire des trous autour du système racinaire?
Ah, pour voir si ça n'a pas trop cannibalisé, entre guillemets, le terrain, c'est ça?
Voilà, c'est ça. Sinon, ouais. Si ça, si tout se va, ça, il trouve des endroits où il peut creuser un ou deux fers de bêche, il n'y a pas de souci, quoi.
Donc, si le sol reste meuble, oui.
Ouais.
Si le sol est plein de racines, qu'est-ce qu'on fait?
Bah là, on n'a pas tout. Si vraiment c'est en surface où le sol a été décapé parce qu'il y a eu de l'érosion et compagnie, on n'a pas le choix que de faire rogner, quoi.
Ouais. Donc ça voilà. Veut dire derrière même creuser limite, quoi.
Complètement. Là, c'est pas de choix. C'est pour ça que, alors parce qu'on peut planter des choses au pied du tuya, mais tout dépend comment a poussé le tuya. Si je sais qu'il y a des racines souvent traçantes, hein, voilà. Mais il peut être moins traçant que certains traçants, quoi. Donc voilà, il faut toujours tester. Alors après, on n'est pas dans un aménagement paysager d'une commune. On est dans un aménagement paysager d'une personne voilà, raisonnable. Donc après, s'il y a de la place, on peut tenter de planter des arbres. Plutôt des arbres qui ont une tolérance avec une petite acidité. Pourquoi pas? Alors, ça, c'est pas mal.
Alors exactement, pousse. Je me pose la question de quoi replanter, sachant que j'ai peur d'avoir trop d'acidité et que les tuyaux sont présents depuis très longtemps. L'un est au sud, mais avec partiellement un peu d'ombre, du tilleul à côté, et l'autre est côté nord-ouest,
ouais.
Nord-est, pardon, avec surtout du soleil le matin et le midi.
Ouais, alors, s'il y en a un, par exemple, où il y a le plus d'ombre, bah, on peut aller vers des plantes plus acidophiles, type rhodo et compagnie, peut-être un peu d'azalée et surtout des hortensias, quoi.
Hortensias, par exemple.
Mais par contre, bien sûr, on passe de 10-12 mètres de haut à 1 mètre
ouais,
de large.
Un mètre de haut, quoi. Oui, voilà. C'est sûr que c'est pas la même vision, voilà. Quoi, évidemment.
C'est pas là. On peut mettre des bleuets aussi pour récolter des fruits. On peut mettre plus au bas de la myrtille, des érèbes.
La myrtille, ça craint pas l'acidité, Eric. On est d'accord.
Non, bien sûr. Au contraire. Non, c'est parfait. Variété horticole, je parle bien. Hein, donc,
oui, bien sûr. Bien
c'est
sûr.
Plus facile à gérer. Hein. Même, n'allez pas m'en chercher en forêt. Hein.
On a fait le tour? Du tuya.
Je sais pas. Oui, complètement. Ouais.
Merci pour vos idées. Longue vie à votre podcast d'utilité publique et sans jugement. Signé Vivien. Merci en tout cas, Vivien. Juste rapidement sur. Alors bon, évidemment, on n'est ni conseiller, mais juste quand on le sent pas. Le conseil qu'on peut donner à Vivien quand on le sent pas, quand on est sur un truc de 10 mètres de haut, on n'y va pas, quoi. Peut-être non.
Faut le faire soi-même.
Pour le faire soi-même.
Ah bah non.
Ouais.
Non.
Voilà. Parce qu'à côté, on voit une dépendance.
De toute façon, on peut imaginer qu'on casse quelque chose. Il y a l'assurance, ça marchera pas.
Ouais. Oui, parce que t'es pas censé le faire, quoi, en gros.
Ouais, non, c'est trop. Alors, il y a des solutions. Alors, bon, le tuya, il sera pas forcément, ça sera pas dans le cas. Mais si vous avez un conifère qui est plus sapin et compagnie, des fois, il y a des communes ou des intercommunalités qui cherchent des grands sapins pour Noël, quoi. Alors, des fois, ils vous le
revendez-le.
Coupent. Non, non, ou non, ils le coupent gratuitement et ça, ça vaut le coup, quoi.
Ouais, pourquoi pas un tuya de Noël, tiens.
Ouais, tiens,
Allez, on file en Haute-Savoie, 750 mètres d'altitude, chez Florent, qui nous dit bonjour les champions du jardinage. Je crois que j'ai des pommes de terre qui poussent spontanément dans mon compost. Ici, on a eu deux week-ends, à 25 degrés. J'imagine que des germes ont aimé cela. Maintenant, il neige à nouveau. Je ne sais pas quoi faire. L'année dernière, c'était des petits avocatiers. Repérés trop tardivement, ils étaient malheureusement trop fragiles une fois sortis du compost. Je rentre dans une semaine. Que me conseillez-vous de faire avec ces plants pommes de terre? Je les laisse? Est-ce que je les enlève? Est-ce que je les replante ailleurs? Merci pour vos conseils et longue vie aux semeurs et aux semeuses.
Bah, s'il n'y a pas besoin des pommes de terre, moi, je les laisserai. Hein. Il n'y a pas de souci. Voilà. En sachant que là, avec le froid, à mon avis, ils ont dû prendre un coup sur la tête. Hein.
Bon, donc à tester, à voir. Ouais.
Mais sinon, tous les plants de pommes de terre qui repoussent dans votre jardin,
ouais, c'est top.
À côté du compostier ou dans votre jardin, bah, laissez-le. Sauf si psychologiquement, le bazar des pommes de terre qui poussent ici et là ne vous plaît pas. Mais sinon, attendez jusqu'à temps que vous allez faire des semis ou des plantations où il y a les pommes de terre. Sachez que maintenant déjà, s'il y a des pommes de terre qui commencent à pousser, qui font 30 cm de haut, parce qu'ils ont poussé pendant une période de l'année, vous n'avez pas de souci, hein, parce que vous aurez des pommes de terre. Tout petit à manger.
Mais de les laisser dans le compost, c'est top, parce que on est quitte de les fertiliser.
Complètement.
On est d'accord. Christine du jardin partagé de Saint-Louis. De Veig qui nous dit bonjour Eric, quelques conseils sur les fleurs comestibles. Lesquelles? Quand les planter? Merci d'avance pour tes infos. Visiblement, c'est une intime.
Ouais, je la
bien
connais. Bien
aimé celle sur les légumes perpétuels. Au plaisir de te revoir un jour prochain, peut-être.
Christine, bah bientôt.
Flan Club, du coup. Alors, bah, les questions. Les fleurs comestibles.
Bah là, les fleurs comestibles. Hein, moi, j'aime bien toutes les fleurs des familles des crucifères, brassicacées. Hein, donc là, on en trouve pas mal. Moi, ce que j'aime bien aussi, c'est la fleur, tout ce qui est calendula. Donc ça, c'est vraiment très pratique.
Donc le souci, hein, c'est ça?
Le souci, voilà.
Ok. Les chrysanthèmes se mangent aussi. Hein. Il y a
oui,
des
voilà. Et puis aussi, voilà les tout ce qui va être les pensées aussi. Voilà, il y a pas mal de pensées qui se mangent très très facilement. Et ce qui est super intelligent, parce que bon, c'est un peu commercial, mais il existe. J'en ai vu avant-hier des paquets de graines de fleurs comestibles qui est pour 10 mètres carrés.
Oui, donc, c'est ça.
Donc ça, c'est vraiment pratique parce qu'on a un peu de tout, voilà.
On vend des tapis, hein, pardon, 10 secondes de pub, on vend des tapis avec un des grainetiers sur des fleurs utiles et comestibles.
Moi, globalement, ce que j'aime bien pour la couleur, c'est tout ce qui va être la bourrache et compagnie. Et je ne mange que les fleurs comestibles qui ont un goût très piquant, donc plutôt de la famille des brassicacées, donc anciennement les crucifères.
Donc, ce qui est un petit peu quoi, chou radis, c'est ça?
Ouais, enfin, voilà, c'est ça. Bah, par exemple, fort, en ce moment, ça vaut le coup. Quand vous laissez monter vos radis noirs, vous laissez vos choux, bah, utilisez toutes ces fleurs. Elles sont hyper comestibles, ils ont vraiment beaucoup de piquant. Et comme ça vous permet d'agrémenter les salades et les compagnies.
Je disais, non, juste par rapport à ça, je disais, oui, on vend des tapis. Effectivement, il y a des boîtes, des mélanges qui existent déjà. C'était juste pour éviter le fait que, je crois que j'ai vu ça l'autre jour dans un supermarché, où aujourd'hui, on vend dans des boîtes en plastique quand même des fleurs. Hein, voilà.
Oui, bien
et
sûr.
Le truc doit durer, je pense, 2 jours. Ouais. Et après, tu peux les jeter. Bon, voilà, c'était juste...
Je comprends que ça, par exemple, les professionnels, restaurateurs et compagnie,
oui,
les achètent. Voilà. Et encore, bien que je connaisse certains qui utilisent justement, ils sélectionnent quelques fleurs chez eux.
Et puis les sèment, quoi.
Voilà. Et en sachant qu'il faut des fois, quand on est professionnel, avoir une traçabilité. Donc, au moins, la petite boîte, elle est traçable. Ce qui est important aussi, c'est si vous semez ces fleurs comestibles, si c'est marqué 5 mètres carrés, en réalité, c'est presque pour 10 mètres carrés. Hein.
Oui, parce qu'on peut semer très,
pensez
très,
le double, très large. Pensez le double et non pas diviser par 10, comme ça arrive, où on met tout dans des petits pots et on n'a rien qui vient, quoi.
Cécile en Belgique qui nous dit « Il y a quelques semaines, je vous ai demandé conseil pour mon magnolia qui grandissait pas, conseil que j'ai évidemment mis en application. Merci. Est-ce que ce conseil de désherbage autour de l'arbre vaut pour tous les autres arbres ?»
Bah, disons que quand on fait l'idéal, c'est qu'au pied, il faut toujours qu'il y ait plutôt une concurrence au niveau des pieds des plantes pour que les racines de l'arbre, de l'arbuste, puissent s'enfoncer. Mmh. Donc ça, c'est important. Des fois, moi, je préfère planter autre chose au pied de ces plantes, surtout à la plantation. Comme ça, ça fait des massifs plutôt que des arbres ou des arbustes isolés. Voilà.
Ouais,
ça va permettre. Parce que notre objectif, je dirais pour tout, si on n'a pas le choix, c'est l'enracinement.
Ok.
Aujourd'hui, pour qu'une plante puisse lutter plus facilement contre les soucis du changement climatique, c'est que plus on aura un système racinaire fort, mieux ça sera.
Donc ça veut dire on désherbe et on paille pas.
Voilà, pas pailler. Alors désherber, je préfère encore laisser l'herbe que pailler, quoi.
Ok, oui, parce que oui, la concurrence est moins forte, c'est ça?
Bah, comme ça, au moins, il y a une concurrence de l'herbe, au moins, qui va permettre aux racines de se barrer, quoi. Donc ça, c'est mieux. Alors que le paillage, on a souvent tendance,
quand
l'arbre
est
très jeune, de rester en haut.
Ouais,
bien sûr, quand on met des arbrisseaux, c'est pour ça que les termes sont importants. On insiste beaucoup dans le podcast. Arbre plus de 7 mètres, arbuste de 4 à 7 mètres, et ainsi de suite. Plus on va aller vers les arbrisseaux, les sous-arbrisseaux, hein, plus il faut pailler, parce que dans leur environnement naturel, ce sont des plantes qui sont à proximité d'arbres, donc leur système racinaire est plus faible, mais ils reçoivent la quantité de feuilles importantes des arbres et compagnie.
Même si tu dis que la première année, il ne faut pas pailler. C'est
voilà,
mieux,
voilà.
C'est
sur
mieux
les arbres.
Ça descend.
Sinon, les arbrisseaux, on peut. Hein, les sous-arbrisseaux, les petits arbres, si vous mettez des hortensias, même dans un terrain qui est, je dirais, plus acide, on met du paillage, des aiguilles de pin et compagnie. Quand on va mettre des grosiers, des cassissiers, on en met aussi. Mais par contre, si on met un pommier, non. Si on met un platane, non. Voilà, parce que, par contre, on plante d'autres plantes au pied de ces plantes.
Bien, allez, Christophe de la Plaine des Vosges qui nous dit bonsoir les amis du jardin, je vais enfin pouvoir écouter vos 3 derniers podcasts. Alors pour commencer, je trouve un peu déplacé qu'on puisse critiquer les quelques rictus Alors, asthmatiformes de brebis égarées qui se sont logées dans vos derniers épisodes. C'était les problèmes de son qu'on avait.
Ouais.
Ou alors de l'explication de deux Eric pour le prix d'un, alors que justement, il n'y a pas de prix à payer pour recevoir vos conseils. C'était beau. Hein.
Oh, c'est beau.
Ah, c'est beau. Hein. Christophe nous écrit ensuite aujourd'hui un retour fataliste avec seulement 50 pratiques au jardin. J'ai encore beaucoup de mal avec certains semis. Salade, persil, mâche, épinards, carottes, absence de levée, fonte de semis.
Bah, oui, ok. Bah, là, bon, là, les 4 qui donnent, je comprends. Hein.
Ouais, c'est
si
les plus durs.
Le problème qu'avec ça, ça va.
Bon, c'est les plus durs, effectivement. Par dépit, en novembre dernier, j'ai vidé à la volée les fonds de sachets de ces semences dans ma serre sans aucune préparation et sans aucune précaution.
Ouais.
Alors, résultat, malgré la présence de limaces de toute taille, j'ai profité d'un parterre de mâches jusqu'à fin mars, avant la levée en graines, et encore d'une excellente pouillotte, les jeunes pousses de salade en patois lorrain.
Ouais.
J'ai récemment fait cohabiter au même emplacement de nouveaux plants de salade d'une amie. Horreur malheur, en 3 jours, elles ont toutes succombé à l'attaque de ces mêmes limaces qui continuent à tourner le dos à cette si bonne pouillotte. Alors Eric, c'est ironique évidemment, mais est-ce que je dois céder à la tentation de tout semer à la volée en novembre?
C'est la meilleure période.
Ouais, et ça marche visiblement.
Ça marche complètement,
ouais.
En sachant que souvent on sème trop profondément.
Oui.
Pour l'instant.
Attention, il est parti.
Ouais. Quand une graine sera capable de s'enfoncer à 10 mètres de profondeur, on verra.
Ouais.
Aujourd'hui, quand il y a une graine de carotte sauvage qui tombe, elle tombe sur le sol.
On est d'accord.
Voilà. La mâche, elle marche très bien. C'est quand on balance la mâche et on marche dessus.
Ouais, parce que on tasse, quoi.
C'est on ça. Tasse. Parce que c'est un sol. D'ailleurs, la mâche, elle vient, vous verrez, des fois dans les sentiers et non pas à l'endroit où vous avez semé.
C'est ça.
Par contre, ce qui est compliqué, c'est. Moi, j'ai déjà fait, c'est-à-dire que toutes mes paquets de graines, je les ai tous mis ensemble.
Pour faire un mélange.
Enfin, sur un endroit.
Ouais,
je fais un mélange. Par contre, pour le désherbage, c'est terrible. Quoi.
Bien.
Mais pour tout ce qui est salade, tout ce qui n'arrive pas, le persil, les carottes, je me casserai pas la tête. Hein.
Bon, ben voilà. Vous avez la réponse à moitié, ouais. Christophe.
Et je rajouterai dans le lot les panais.
Les panais, oui, qui ont vraiment du mal, effectivement, à pousser. Dernière question, je dois avouer que j'aurais bien conclu mon témoignage différemment. Brice Eric, ainsi la technique de semis à la volée en novembre fonctionne, cela vous permettrait de ne faire que 4 podcasts par an, un pour le semis, un à la préparation du sol, un pour les boutures et les bulbes et un à la récolte.
Ouais, mais on s'emmerderait bien, quoi.
Précieux, c'est ça, un temps précieux économisé pour soigner une haute qualité audio et faire plaisir à vos rares auditeurs dont la forme est plus importante que le fond. Oula, ça fight. Christophe nous dit encore, hâte de découvrir votre livre que j'ai déjà reçu, mais je me réserve pour ma semaine de vacances à venir, donc bonne lecture. Et il a renvoyé un message. Christophe, il a dit: Brice, loin d'être bobo, j'adore l'oignon carambole qui se recèle naturellement et qui est tellement graphique dans le jardin. Voilà, on en parlait la semaine dernière.
Ah ouais, complètement.
Sur les légumes perpétuels, un article.
Mais c'est fou que là, j'ai eu des retours sur ce podcast sur les perpétuels. C'est vraiment quelque chose qui est ancré. Hein.
Eh ben, écoute, donc ça marche. Il n'y a pas que des bobos de Paris.
Non.
On n'a rien contre les bobos ni.
Ah non, Paris, rien du tout. Hein, nous, on a les bobos, on peut les soigner, je dis toujours.
Non, mais c'est...
Oui. On appelle ça la bobologie.
C'est ça. C'est pas faux. Allez, il nous en reste deux. Samuel qui nous dit: j'ai récemment découvert votre podcast et j'en suis super fan. Merci pour votre travail et vos conseils. Alors, je me lance pour deux questions. Vendredi, vous aviez brièvement abordé la question des serres hydroponiques type MyFood.
Ouais.
Ayant un jardin de ville assez petit et une surface de culture limitée, j'envisage de vendre un rein pour m'en acheter une. Que pensez-vous de ce concept? Le rendement est-il vraiment au rendez-vous? Alors de quoi? De concept de vendre un rein ou...
Non, mais moi, je garderai mon rein.
Ouais.
Non, mais là, j'ai... Alors, moi, je l'ai vu faire mais chez des bricolos,
ouais.
Des bons bricoleurs bricolage qui l'ont fait eux-mêmes.
Ouais. On rappelle juste, hein, des poissons, on donne à manger aux poissons, il y a des pompes qui remontent la flotte et ça arrose en gros des gouttières pleines de fibres.
Ouais. Alors quand je dis bricolo, hein, c'est pas négatif de ma part, hein, c'est des gens qui savent tout faire avec une clé à molette et un tournevis. Fabuleux, voilà. Mais c'est fait avec de la récup, avec des bâches de récup, avec tout. C'est super. Voilà. Mais
on peut pas faire de légumes racines, Eric, on va le rappeler. Hein.
Oui, c'est ça, voilà.
Voilà.
Mais par contre, comme dit, il y a une super connaissance technique. Faut savoir super bien bricoler et puis il faut savoir élever parce que dès qu'on a de l'animal, voilà, c'est quelque chose. Après, mettre des milliers d'euros parce que des fois ça a un coût terrible, pour ça je suis pas persuadé que les professionnels de la ville de demain veulent mettre des salades à tous les niveaux, des champs, voilà, des trucs, ils font ce qu'ils veulent, hein, ça les amuse. Moi, je préférais qu'on protège les sols que faire ça, mais bon, ça, c'est qu'une histoire politique.
C'est très engagé aujourd'hui. Hein,
comme, oui, comme c'est très engagé. Ouais, et quand les auditeurs vont entendre la fin, ils vont dire, heureusement, Brice n'est pas au courant.
Tu fais ce que tu veux.
Mais donc, il faut savoir que... Enfin, moi, j'ai du mal avec ça, hein. Franchement. Voilà. Moi, j'ai vu, c'est des gens qui le faisaient comme ça, en hydroponie avec les poissons, c'est super. Hein. Je suis des copains bricoleurs, c'est super, c'est génial, il y a des super résultats. Mais ce qui était intéressant dans leur projet, c'est pas la quantité, c'est tout le travail de fond qui a été fait pour réfléchir, pour le penser.
Ouais.
Et ça, c'est super intéressant. La recherche de matériaux, comment le fonctionnement d'une pompe, toutes les merdes qu'ils ont eues, ça c'est super intéressant aussi, parce que ça permet de réagir. Voilà. Mais après, je sais pas. Ça...
Voilà, en gros, l'idée c'est la rentabilité d'une certaine.
Non, mais j'y crois pas.
C'est ça. Oui, parce que c'est ce qu'on disait la semaine dernière. Alors nous, on serait très intéressant. Bah, il faut des autres, hein. Mais on dit bah, il faut parce qu'ils sont en Alsace. Mais ouais. Nous, on serait super content de discuter, d'avoir ce sujet sur la rentabilité.
Ouais.
Parce que nous, un petit peu, c'est voilà, sur les. Enfin, si c'est pour récolter 4 feuilles de chou kale toutes les 3 semaines, je ne suis pas convaincu que
voilà. Par contre, moi, je trouve que ça serait super intéressant dans les établissements scolaires de mettre ça dans des établissements techniques pour comprendre aussi tout le côté technique à côté.
C'est
super intéressant parce qu'on est obligé de connaître le végétal, mais aussi comment fonctionne un circuit hydrique. Voilà, tout ça, ça me semble tellement intéressant, mais c'est tellement intéressant, mais pas forcément pour la culture, je trouve.
Bon.
Voilà, mais bon, c'est qu'un avis hein, là-dessus. Voilà.
Non, non, mais t'as
et
le droit.
Je suis partial.
Qu'est-ce que tu voulais dire attends la fin ? J'ai pas compris.
Non, tu verras.
Ah, ok, d'accord. C'est bon. J'ai planté un prunier, reine Claude auto-fertile, il y a 2 ou 3 ans. Mal à démarrer, reste décharné avec juste quelques feuilles et des petits fruits sur les sommités. Dois-je intervenir ou simplement patienter ?
Bah, disons, vu la photo que j'ai eue, c'est vraiment un prunier parce qu'il a une forme dressée. Ça,
oui.
C'est clair. Là, il ne pense qu'à une seule chose, c'est trouver un équilibre pour positionner ses branches. Et comme D'accord. Il y a 3 branches qui vont voilà, comme un porte-manteau, bah, chacun veut être chef des 3. Il n'y a pas un chef, il y en a 3. Et donc, pendant ça, pour l'instant, il se cherche. Et cette compétition nuit à l'équilibre de l'arbre qui va faire que il va pas se mettre à fruit tant qu'il pense là c'est de la testostérone en ce moment hein.
Donc
il cherche pas à faire grand chose. Moi je serais à l'auditeur, ça serait de privilégier une branche qui soit la pointe et les autres de leur faire comprendre qu'ils doivent pousser un peu moins. Donc est-ce qu'il serait pas intéressant par exemple de mettre des petits morceaux de bois pour écarter de la grosse branche principale, tirer avec des cordes pour diminuer la vigueur des branches sur les côtés quoi.
Donc on
Parce
courbe.
Que pour l'instant, il se tire la bourre hein, pour faire ça.
Ouais, c'est ça. Ok, on courbe, on arque d'une certaine manière, comme on va le faire sur des vignes, par exemple. Pardon, je reprends cependant, mais pour limiter un petit peu et freiner les flux de sève et jouer comme ça, quoi. C'est ça.
Oui, parce que le flux de sève, ça favorise le bois et dès qu'on limite le flux de sève, ça favorise le fruit.
Ok. Énième tempête, c'est juste fou. Bienvenue en novembre. Bien, pendant qu'on enregistre, je ne sais pas si vous entendez la pluie. On va terminer avec Clément qui nous dit, qui a sorti un livre sur les graisses des fruitiers sauvages. Il nous propose de le vendre, mais voilà, je voulais juste faire un petit coucou. Clément Flight, .clé.fr. .clé comme CLEF, .fr. C'est son site internet. Il a donc apparemment, il propose effectivement ce bouquin en auto-édition. Donc voilà, un petit coup de pouce.
Alors très important.
Si tu connais,
Eric. Hein.
Si tu connais.
Bah, alors je ne connais pas le personnage, mais en tout cas je connais la technique qui est super. Hein, c'est ce qu'on appelle la friche accueillir. Hein, voilà. Et c'est vraiment super. Alors bien sûr, il faut le faire sur des endroits autorisés, hein, parce que j'en connais qui grèvent de partout, même chez les particuliers, qui ne sont pas au courant. Mais là, c'est vraiment la friche à cueillir, c'est quand même quelque chose. C'est-à-dire qu'il grève des arbres qui sont souvent issus de semis, donc des arbres qui ont un système racinaire fort. Et comme le système racinaire, il est fort, puissant et efficace, ben forcément, cette friche à cueillir est très, très, très bien. Quoi.
Fort, puissant, efficace, c'est les 3 mots qui te résument. Eric, merci
en tout cas
pour
fort,
tes
réponses. Voilà.
Non, mais je prépare le terrain parce que je ne sais pas ce que tu vas nous sortir comme bombe avant. Après, c'est pour ça. Bon. Eric, on va rappeler bien sûr à tous ceux qui nous écoutent qu'ils peuvent désormais nous contacter sur onsemefort@monjardinbio.com. Onsemefort@monjardinbio.com. Oubliez les autres moyens. de nous écrire. On va passer à on va parler des chicons, des chicorées, parce que tu nous dis que c'est un légume fleur qui ressemble.
Non, c'est pas. Ouais, mais c'est. Parce que des fois, on nous dit souvent qu'on parle que des légumes, et maintenant, j'ai décidé de temps en temps de mettre une fleur. Alors, c'est pour ça que je parle de glaïeul et de chicorée.
Oui, c'est ça. Mais la chicorée qui est mal connue, parce que c'est chicon, chicorée. Alors, ouais. La chicorée, on en fait aussi de la poudre le matin pour.
Voilà, mais.
Pour en mettre. C'était quoi? C'était le rouge, je crois. Hein,
ouais, c'est ça, oui.
Le chicorée. Ouais. Mais non, en même temps, on met du jambon autour, on en fait de la salade. Enfin, bref.
Alors là, justement, je parle d'une chicorée qui est plutôt une chicorée d'été, parce que la chicorée, elle est plutôt d'hiver, entre guillemets. D'automne et d'hiver, et donc il faut savoir qu'il y en a qui aiment bien, pour simple, il y en a qui n'aiment pas les laitues,
d'accord,
tout ce qui n'a pas vraiment de goût un peu amer, et donc il existe des chicorées d'été, des jaunes, cœur jaune d'été, qu'on peut semer en ce moment, à condition que le sol soit supérieur à 15 degrés.
Mais c'est de la salade, on est d'accord.
C'est de la salade.
Mais ok, bon, ça n'a rien à voir avec les chicons là.
Bah non, voilà, c'est de la même famille, hein, y a pas de souci, mais si c'est plutôt une salade d'automne et d'hiver.
D'accord.
Alors que moi, je vous propose une chicorée plutôt d'été, quoi. Hein. Alors il en existe maintenant un certain nombre de variétés, mais c'est simplement pour dire qu'on peut le faire. Par contre, si on sème des laitues, on peut le faire maintenant, même si le sol est froid. Par contre, la chicorée, il faut que le sol soit un peu plus chaud pour que ça puisse bien lever. Et puis, il faut pas oublier que les chicorées aussi, quand on les met en pépinière, et ça, c'est valable aussi pour les variétés d'automne et d'hiver. Elles ont du mal à. Enfin, si on les repique, les racines sont nues souvent, quand on fait en pépinière et qu'on veut les replanter. Et dès qu'on a cette phase-là, ça empêche la salade de s'élargir, mais elle va plutôt monter en graines. C'est pour ça que si vous en avez en ce moment, ce que je vous conseille, c'est de les semer en ligne, c'est-à-dire en place tout de suite, hein, un peu éparpillés ou en ligne, comme vous voulez. Mais en les semant vraiment très légers pour que dès que vous allez avoir une chicorée qui va lever, bah vous la laissez en place sur la ligne. Par contre, dès que vous en aurez en surplus, bah celle-ci, vous pourrez la repiquer. Donc, c'est vraiment une salade qui est facile à avoir. Et c'est pour ça que souvent, si vous achetez, c'est vos horticulteurs, des chicorées, même d'automne et d'hiver, qui sont en mini-motte, c'est pas mal parce que ça évite d'avoir cette racine qui est, je dirais, nue. Voilà.
Eric, dernière question. Tu parlais de la chicorée il y a un instant. Alors, parce que c'est de la même. En fait, c'est le, je sais pas, c'est le bourgeon, c'est la fleur. Je reprends, tu disais, hein, le chicon, ouais. L'endive, oui. Qui est aussi une chicorée. C'est quoi, du coup, c'est la racine de cette salade-là?
Non, pour qu'on fasse des endives, par exemple, il faut semer des salades avant, pour faire simple.
Ok.
Et après, ce morceau-là, on va le reprendre, qu'on va repiquer et on va les mettre à l'obscurité et le bourgeon qui va repousser va donner la fameuse endive.
Ok, donc là, ça n'a strictement rien à voir.
Là, ça n'a rien à voir, c'est
pardon,
on mange la première phase.
Okay.
Là, c'est une salade toute simple, hein, okay. Mais qui existe parce que souvent on me dit la chicorée, c'est pour l'automne-hiver.
Mais là, ça
là,
existe
on
aussi
peut
en
avoir
été.
Pour l'été, début d'automne. Donc c'est
en
ça qui est super
été.
Intéressant. Ça te permet, parce que les gens, ils aiment bien cette salade parce qu'elle est un peu dure. Des fois plus amère, alors c'est souvent selon les gens, quoi. Mais c'est pour ça que je voulais simplement parler. Et
bien
à côté
sûr.
De ça, je voulais vous parler aussi, bien sûr, d'une fleur, parce que d'une fleur, alors là, qui est complètement. Alors, peut-être qu'en pensant aux salades d'hiver, enfin aux salades un peu amères, c'est peut-être pour une population un peu plus âgée, voilà. Bah, les glaïeuls, c'était aussi. Bah, c'était un peu une fleur d'époque, entre guillemets. Hein. On avait l'impression que mettre des glaïeuls aujourd'hui, c'est plus très moderne. Bah, si, ça revient. Parce que pourquoi alors ça c'est plutôt un acte militant mais qui n'a rien à voir avec ce que je t'ai promis à la fin hein. C'est un acte militant, pourquoi? Parce que c'est de la fleur à couper et planter de la fleur à couper notamment en bulbe, bah, ça permet de donner une claque à toutes les fleurs à couper qu'on peut acheter ici et là et qui ne viennent pas des fleurs dites de France et qui sont souvent pleines de pesticides et compagnie. Je les vois bien en ce moment avec les remises de fêtes et de compagnie. Il y a même des glaïeuls, des choses comme ça. Quand les gens leur tend un bouquet et que ce n'est pas des fleurs de France, hein, entre guillemets, bah les gens ils ont intérêt à se laver les mains parce qu'ils sont pleins de pesticides.
D'accord.
Donc c'est pour ça que je pensais au glaïeul qui est vraiment une fleur d'antan, entre guillemets, qu'on plantait facilement dans les jardins.
Tu veux dire une fleur de vieux, c'est ça?
Ouais, une fleur de vieux, quoi. Hein.
Ouais, mais qu'on adore.
Voilà.
Hein,
donc là, que moi je vais planter bientôt aussi. Parce que le serin est un peu faible, et donc c'est super intéressant parce que si vous avez un endroit qui est surtout à l'abri du vent, parce que comme c'est des plantes avec des fleurs qui sont très hautes, il faut pas qu'il y ait des, voilà, que la zone soit exposée au vent. Et donc, vous faites une petite tranchée, voilà, sur une profondeur de 10 cm. Et puis, vous mettez vos bulbes, hein, tous les, voilà, tous les 10, 15, 20 cm. Et puis, il ne faut pas oublier que ce sont des fleurs qui demandent à être tutorées. Soit avec un tuteur individuel, ou soit avec deux grands tuteurs de chaque côté, avec une barre à l'horizontale qui permet d'attacher les fleurs. Voilà. L'intérêt aussi, c'est que si on veut en faire des fleurs à bouquet, c'est quand même super conseillé. Les bulbes, vous n'êtes pas forcé de tous les planter là maintenant, vous pouvez les différer jusqu'à fin mai, comme ça vous aurez une chaîne, je dirais, voilà, un échelonnement au niveau des plantes, des floraisons. Et puis il faut savoir que c'est une plante entre guillemets vivace, il faut sortir de terre, surtout quand on est au nord de Lyon, et ça va permettre d'avoir tous les ans de nouveau, grâce aux petits bulbilles, des glaïeuls pendant plusieurs années, en sachant qu'au bout d'un moment, il faut en racheter parce que voilà, ça dépérit. Alors, je parle de ça aussi parce que en ce moment, les gens, et c'est pas toi que je vais dire ça, ils sont un petit peu en retard sur leurs achats. Et là, il y a des grands prix qui sont proposés, enfin, vraiment des ristournes importantes. Je dirais, pour l'achat de bulbes, hein, des fois pour 1 euro, il y a 10 bulbes de glaïeuls, pour éviter qu'ils pourrissent dans les jardineries, quoi. Donc, profitez-en.
Donc ça, c'est le coin des bonnes affaires, hein, pour le coup.
Et franchement, c'est une très jolie fleur à couper. En ce moment, il y a une fleur à couper, c'est le lilas, hein, le fin de lilas qui finit. Il y a le sureau qui vient. Des fois, c'est pour ça. Prenez un peu exemple sur les fleurs qui vous sont proposées par le jardin de curé, le jardin qui vous permet de donner une liste pour fleurir, pour fleurir l'église, hein, du 1er janvier au 31 décembre.
Hein. Ouais.
Ça, c'est des fleurs qui se tiennent bien, ça fait plaisir. Et si vous êtes plus jeune, ça fera forcément plaisir aux parents et aux grands-parents.
Bien, on a fait le tour de la glaïeule, ouais. On a fait le tour des chicorées. Reste évidemment le faux dicton du jour.
Alors, le faux dicton du jour est cette semaine une chanson. Ça s'appelle Le chanson du glaïeul.
Ah. Jetzt sorten, comme on dit.
Alors, c'est vraiment... je sais qu'il a plu beaucoup, mais pourquoi pas d'en avoir encore un peu plus. Alors, je vais vous faire une chanson même. Hein. Je vais vous la chanter, la chanson du glaïeul.
Oh là, attention.
Quoi, mon glaïeul? Qu'est-ce qu'il a, mon glaïeul? Quelque chose qui ne va pas, il ne te revient pas. Oh, je sais que tu n'as rien dit, c'est ton œil que je prends au mot. Souvent un seul outil suffit pour me vous planter mieux qu'un poireau. Mais quoi, mon glaïeul, qu'est-ce qu'il a, mon glaïeul? Si tu veux te le payer, viens, je rends la monnaie. T'as rien dit et je te l'ai déjà dit, on ne vous a pas y passé la nuit. Mon glaïeul et moi, on est transi, on cherchait plutôt des radis. Quoi, ma gueule, qu'est-ce qu'elle a, mon glaïeul? Quoi, mon glaïeul, qu'est-ce qu'il a, mon glaïeul? Quoi, mon glaïeul, qu'est-ce qu'il a, mon glaïeul? Oui, ma rose a grande gueule, oui, elle ressemble à mon glaïeul. Elle s'imagine que je lui dois tout, sans elle, je n'aurais jamais planté. Sans elle, je ne vendrais pas un chou. Mon glaïeul a bien le droit de rêver. Quoi, mon glaïeul? Qu'est-ce qu'il a, mon glaïeul?
Je peux me retourner? C'est bon. The Voice, samedi soir sur TF1. Ouais. Eric, il sera peut-être.
Ah, le glaïeul.
Eh, c'est pas mal.
Écoute, alors j'ai pas mis la musique derrière parce qu'on n'a pas le droit de mettre la musique parce que sinon on va avoir de la SACEM. Mais si j'ai un peu l'air derrière, j'y arrive mieux.
Bon, si t'as un peu l'air derrière, t'arrives mieux. Écoute, ouais. Voilà, ravi.
Alors, je suis en train de chercher des musiques comme ça, où ça répète. Et la prochaine fois, c'est « Vous saurez tout sur le zizi ».
Oui.
Qui sera « Vous saurez tout sur le radis ».
Ah bah tiens, pourquoi pas. Après le bouquin, pourquoi pas un CD?
Ouais.
Il y a encore un peu de boulot, à mon avis, mais bon.
Il y a encore de boulot, mais ça va venir. Alors, comme les auditeurs, ils ont dit que le son allait mieux.
Oui.
Je me suis dit, c'est le moment où j'en ai...
Eh ben écoute, on va attendre les retours sur notre... J'étais pas du tout au courant, hein, promis. Hein, vraiment.
Non.
En tout cas, merci. ce podcast n'a ni queue ni tête. Merci en tout cas, Eric, pour cette prestation vocale. Et puis, on va se donner rendez-vous la semaine prochaine. Mais avant, les trois choses essentielles à savoir, onsaimefort@monjardinbio.com pour nous contacter. Rendez-vous sur Instagram, sur Facebook, bien sûr, sur le blog monjardinbio.com. Vous nous retrouvez ce podcast sur toutes les plateformes. Partagez, écoutez-nous et surtout notez-nous. Ça nous fait vraiment très plaisir. Et puis, nous, on se donne rendez-vous vendredi prochain. On verra quel sera le sujet, Eric, et peut-être même la chanson d'Eric. Si vous aimez ou pas, bah dites-nous. Tiens, ça permet
ouais, de mais il n'y en aura pas tout le temps. Hein, c'est parce que
non, mais faut-il. Est-ce que Eric doit. Bah, attends, tout le monde fait appel au vote. Donc, Eric, doit-il continuer des chansons à la place du faux dicton envoyez-nous un mail. Voter, c'est gratuit. En tout cas, pour voter. Et nous, on se donne rendez-vous vendredi prochain. Eric, le mot de la fin.
Bah, si vous voulez avoir que. Si vous voulez que votre jardin ait du glaïeul. planter au bon moment.
Voilà, et on va le rappeler, la plantation des glaïeuls, c'est
maintenant.
Voilà. À la semaine prochaine, salut.
À la semaine prochaine, salut.